Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, une exploration des enjeux énergétiques et environnementaux en Afrique. On a plusieurs articles récents d'Africa Press sous les yeux et ils dessinent vraiment une image contrastée. D'un côté, de belles promesses, la transformation via les énergies vertes, et de l'autre, des défis économiques, environnementaux assez costauds. Alors, on va se pencher sur quoi exactement ? Le potentiel de l'hydrogène vert d'abord, ce carburant d'avenir comme on dit. Ensuite, la construction d'un méga barrage au Congo pour l'électricité là. Puis, l'impact possible et même redouté d'une taxe carbone européenne sur l'économie du continent. Et enfin, une initiative concrète en Zambie pour lutter contre la déforestation. Notre but, décortiquer tout ça, comprendre les opportunités, oui, mais aussi les risques. Allez, on y va. Commençons par le positif. Cette espèce de ruée vers les renouvelables, l'hydrogène vert. C'est-à-dire l'hydrogène produit avec du solaire, de l'éolien, bref, du propre. On le présente souvent comme une révolution, potentiellement. Les sources parlent de réduire la dépendance aux fossiles, c'est logique, d'améliorer l'accès à l'électricité, et même de créer une vraie économie verte tournée vers l'exportation. Apparemment, des partenariats Nord-Sud se mettent déjà en place. Et puis, il y a ce projet pharaonique, on peut dire, au Congo, le barrage de Sonda. Lancement prévu en 2025, on parle de 600 à 800 mégawatts et un investissement, tenez-vous bien, plus de 8,5 milliards d'euros. Avec la Chine, l'objectif, il est vital, stopper les coupures de courant à Brazzaville, à Pointe-Noire. Plus de 2,5 millions de personnes concernées. 8,5 milliards, c'est une somme... ça donne le vertige, quoi. On imagine la pression pour que ça marche.
Oui, ça donne le vertige, mais attention. Il faut quand même tempérer un peu l'enthousiasme, surtout pour l'hydrogène vert. L'IRENA, vous savez, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, elle-même signale des risques importants. Ce n'est pas si simple, c'est pas une solution miracle, quoi. Le risque principal, et on n'en parle pas assez, je trouve, c'est la compétition. Pour l'eau douce, par exemple, ou même pour l'électricité renouvelable qu'il faut pour le produire, cet hydrogène.
Ah oui, concrètement, ça veut dire quoi, cette compétition ? Que les besoins locaux en eau ou en électricité pourraient se retrouver en concurrence avec l'exportation ?
Exactement, c'est ça. Une tension potentielle très forte. Et ça pose direct la question, qui va en bénéficier ? Comment on répartit les bénéfices ? D'ailleurs, l'ITEI, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives...
Oui, je connais.
Eux aussi s'inquiètent. Risque de corruption, manque d'implication des communautés locales, bref, sans règles claires, sans vraie prise en compte des impacts sociaux... les belles promesses, elles risquent de ne pas profiter aux populations sur place. Et pour le barrage au Congo, Saonda, même si l'objectif est bon, évidemment, le défi, il est immense. Le coût est colossal, vous l'avez dit. Et puis, tout va dépendre de la gestion de l'opérateur public, E2C.
Énergie électrique du Congo.
Voilà. Et d'après l'article, leur gouvernance est souvent critiquée. Donc, voilà. Faut voir.
D'accord. Donc des gros défis internes pour ces projets et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi cette menace qui vient de l'extérieur, la fameuse taxe carbone européenne, le MACEF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, prévu pour 2026.
Et effectivement. Et ça, ça inquiète beaucoup sur le continent. Vraiment. La Banque africaine de développement, l'APO, l'Organisation des producteurs de pétrole africain, tout le monde tire la sonnette d'alarme. On parle de pertes potentielles de 25 milliards de dollars par an pour l'Afrique. C'est énorme.
25 milliards, ah oui, quand même.
Oui, et ça pourrait freiner net la capacité des pays à valoriser leurs ressources, y compris les hydrocarbures. Parce que pour ces acteurs, ces hydrocarbures sont encore vus comme nécessaires pour financer le développement. C'est ça le point. L'APO demande même un moratoire pour les pays africains. Le docteur Omar Farouk Ibrahim, le secrétaire général, y résume bien le dilemme, tel qu'il est perçu là-bas. L'Afrique ne peut pas se développer sans combustible fossile.
C'est l'illustration parfaite de cette tension, oui. Objectifs climatiques mondiaux d'un côté et impératifs de développement de l'autre, vu depuis l'Afrique. Mais face à tout ça, il y a aussi des réponses qui viennent du terrain. L'exemple de la Zambie, c'est intéressant, non ?
Ah oui, tout à fait. La Zambie vient de lancer un projet important, presque 64 millions de dollars, avec le soutien de la Banque mondiale d'ailleurs, pour lutter contre la déforestation. C'est un vrai problème là-bas.
Oui, j'ai vu les chiffres, 10% des forêts perdues en 20 ans environ.
C'est ça, entre 2001 et 2023. C'est énorme. Donc, L'idée, c'est quoi? Réduire les émissions? Comment? Ben, par une gestion durable des forêts, déjà, et une agriculture intelligente face au climat.
C'est-à-dire?
En gros, de pratiques agricoles qui augmentent la productivité, mais qui s'adaptent aussi au changement climatique, et surtout, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Et le projet vise aussi à générer des revenus pour les communautés locales, notamment via la vente de crédits carbone. Tout ça, c'est intégré dans leur stratégie nationale de croissance verte. C'est une tentative, voilà, de concilier environnement et développement local. Ça pourrait peut-être inspirer d'autres pays. Finalement, ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment une tension constante. D'un côté, on a ce potentiel africain qui est énorme pour les renouvelables et des initiatives locales comme en Zambie qui sont prometteuses, vraiment. Mais de l'autre côté, ben on a des obstacles internes. La gouvernance, le financement, c'est pas simple. Et puis, ces pressions externes, comme la taxe carbone européenne, qui peuvent être paralysantes. Trouver le juste milieu entre la croissance économique, l'équité sociale et la protection de l'environnement, bah, ça reste un exercice d'équilibriste extrêmement complexe.
Très délicat. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond pour l'avenir, non? Une question importante. Comment on fait pour s'assurer que cette transition énergétique, qu'elle soit poussée par des initiatives locales ou par des partenariats internationaux, comme pour l'hydrogène, comment s'assurer qu'elle profite vraiment et équitablement aux populations sur place et qu'elle ne devienne pas juste une nouvelle forme de dépendance ou une nouvelle façon d'extraire les ressources au profit surtout d'acteurs extérieurs? Voilà, c'est une question essentielle, je crois. De quoi réfléchir assurément.